Cascodeur Podcast, épisode 215. Nous avons des frustrations parce que nous combattons le changement des choses. Alan Watts. Enregistré le 31 juillet 2019.
Pour soutenir les cascodeurs, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/lescascodeurs pour une petite donation mensuelle. Merci. Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 215. On est le 31 juillet de... Oui, parce qu'en fait, on devait intercaler une interview qui n'est jamais arrivée. Et du coup, même si on a écrit 216, en fait, c'est la 215. Créature d'habitude. Et voilà, on est passé de 214 à 216. Mais c'est 215 le prochain.
C'est compliqué quand même la vie de cast.
Bah là, en ce moment, là, on va vous dire, c'était pas gagné cet épisode. Il y a eu... Une personne qui a pas pu venir, il y a eu moi qui ai fait un petit tour à l'hôpital, ensuite j'ai un nouvel ordinateur parce que mon clavier est aussi allé à son hôpital, donc voilà, on croise les doigts, mais contre vents et marées, on va faire cet épisode, voilà. Bon, ça va toi sinon ?
Ça va très bien, c'est les vacances, c'est l'été, c'est calme, c'est bien.
Ouais. Eh ben moi, j'ai pas trop vu le calme. J'ai toujours pas réussi à lire mes emails. Bref.
Côté boulot, c'est moins calme, en fait. Mais bon, côté perso, c'est calme. C'est bien.
Ouais, c'est ça.
Il y a pas les enfants, il y a moins d'activité. C'est ça, ouais, là, l'enfant, il fait beau, tu vois, c'est ça. Il y a pas le stress des écoles, des machins, tout ça.
Ouais. Je m'ennuie. Alors, ben, on va se lancer, puis on va voir jusqu'où on va. On va commencer par les langages. Et d'abord InfoQ qui a sorti un rapport sur les tendances de Java. Et donc visiblement c'est un rapport qui faisait en interne depuis quelques années, enfin en tout cas depuis un certain temps, avec un format du type innovateur, early adopter, early majority et late majority. Et puis ça se veut sur l'écosystème JVM, c'est assez compact, ils essaient pas de nécessairement tout couvrir. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que c'est pas basé sur des analystes, c'est basé sur les éditeurs InfoQ, donc c'est des gens InfoQ, donc c'est des gens qu'on connaît, Ben Evans, Dustin Schultz, alors lui je connaissais pas, mais Charles Humble, Daniel Briand, tout cela, c'est des gens dont on connaît les noms, voilà, et du coup c'est intéressant d'être vu par, enfin que cette revue soit faite par des gens qu'on connaît. Et puis du coup, eux, leurs points les plus importants, c'est donc le lancement de Java 12 et Java 13, qui sont dans l'approche innovateur, donc c'est vraiment les gens à la pointe qui l'utilisent. Et puis Java 11 qui devient early adopter, malgré le fait que Java 8 est sorti de sa fin de vie commerciale, tout cas chez Oracle. Donc Java 8 est passé en late majority, donc on n'est pas en... En fait, il n'y a pas de Java en early majority, c'est intéressant.
Non.
Donc en fait, voilà, donc le truc qui est censé être là où tous les gens utilisent, pour l'instant, il n'y a pas de version de Java. Donc Java 8,
c'est Kotlin.
Déjà...
C'est Kotlin, on voit que c'est Kotlin qu'ils ont mis à cet endroit-là.
Je parlais de la JVM, là, plutôt. Attends, on va passer de Kotlin après. Donc Graal, en fait, ils se sont mis à mettre en early adopter les JVM qui ne sont pas basés sur Hotspot, que ça soit OpenG9 et Graal, pour des raisons un petit peu différentes l'un l'autre. Graal, en fait, les éditeurs ils se disent bon, bah, c'est pas utilisable par la personne directement, mais on voit un écosystème qui est en train de se construire. Et puis ils couvrent aussi les frameworks, les microservices du Spring Boot qui mettent en late majority, Micronautes, Lagom, Microprofile et Leiden, Vertex qui mettent en early adopter, et puis Quarkus en innovateur par exemple.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent bien que late majority, ça veut pas dire que c'est déprécié ou plus utilisé, mais c'est justement que c'est la croissance qui est ralentie, puisque maintenant tout le monde, enfin beaucoup de gens utilisent ça, que ce soit Java 8, que ce soit, bah, il y a du Groovy, il y a du Scala, enfin il y a tout ça dedans. Voilà, c'est là où il y a la masse la plus importante des utilisateurs. Donc contrairement aux autres où effectivement c'est en cours de développement plus ou moins rapidement depuis les tout derniers, donc comme Quarkus qui est un des innovateurs, ou Java 11 qui donc est early adopteur.
Bon, après ils ont mis des trucs du genre late majority closure qui était en early majority avant. Bon, ça reste quand même un truc de niche malgré tout, c'est pas comme ça.
Ouais, il y a plusieurs trucs comme ça qui sont un peu bizarres. Oui, bah même bon, JRuby qui est marqué en early majority. Bon, JRuby, je suis pas sûr. Reactive Java, je sais même pas trop ce que ça veut dire techniquement.
Enfin, c'est assez curieux, c'est Reactive Java qui est en early majority, mais Vertex en early adopter. Donc
ouais, c'est ça.
Des choses un petit peu arbitraires. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est de lire aussi les commentaires en fait et les raisonnements, parce qu'ils ont mis littéralement certaines de leurs conversations en fait.
Tout à fait. Ça.
Donc ça, c'était cool. Voilà, donc ça vous fait le petit bilan. Visiblement, ils font ça deux fois par an hein, de ce que j'ai pu essayer de découvrir. Le deuxième, c'est sur les collections immuables et en Java, ni maintenant ni jamais.
C'est ça. Au moins, il y a plus de doute là-dessus.
Ouais, c'est ça.
C'est bon, ça sera ni maintenant ni jamais. Oui, donc c'est un article qui revient justement sur le pourquoi, bon bah, de l'intérêt de l'immutabilité et des structures, bah, type justement les listes, les sets, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une collection immutable? Et ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'effectivement, il explique. Alors, attends, je sais plus qui c'est par contre. Désolé pour l'auteur, moi, je me rappelle plus.
Nipa, je sais pas qui c'est. Ouais. Nikolai Parlog.
Et en fait, donc, il explique pourquoi, bah, ça n'arrivera jamais du fait des impacts que ça aurait, qui sont ingérables, de comment ça peut changer sur la JVM. Et c'est assez marrant parce que j'ai vu un autre thread sur Twitter, ça doit être ce matin ou hier, pareil, où c'était Brian Guts qui était interpellé par un développeur qui lui demandait aussi d'autres questions sur mais pourquoi on n'a pas ci dans les collections et où pareil il répondait non, ça sera jamais parce que c'est pas le but des collections de base de traiter ça. Et bon, là pour le coup, pour les immutables, il y a tous les détails sur le pourquoi c'est compliqué, ça serait compliqué voire impossible de façon à implémenter sur les objets qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais, et la raison, c'est pas que c'est impossible dans l'absolu, c'est que c'est impossible en gardant les contrats qu'on a et du coup le framework de collection, les frameworks qui utilisent ces frameworks de collection et du coup tout l'écosystème. Il faudrait faire un basculement d'écosystème vers littéralement collection 2 comme on avait eu NIO.
Ça
serait la seule façon.
C'est pas une transition, il y a pas de transition possible, ça serait qu'une seule une nouvelle version.
Pour les gens qui sont un peu flous sur qu'est-ce que ça veut dire immuable, pourquoi est-ce que juste avoir une interface avec aucune opération de modification, ça suffit pas? C'est assez intéressant, ça permet de re-réfléchir à ces choses-là en termes de design objet, et puis se rappeler que Java, la collection, elle est peut-être immuable, mais ce qu'il y a dans la collection, on peut la changer. Puis souvent, ça encapsule une autre collection, donc si vous modifiez la collection qui a été encapsulée, c'est pas si immuable que ça. Voilà, il y a des petits points, des subtilités en Java qui sont intéressantes à voir. Voilà, sinon on va passer à Go. Et Go, ils ont un compilateur qui compile au build time, on va dire. Et donc il y a une société qui a implémenté un interpréteur Go. Et donc ça, c'est intéressant. Alors, il montrait certains cas d'usage, mais notamment, soit faire un REPL, comme on a dit, pour faire du Go en live et voir comment ça se passe. Et puis, surtout, pour étendre de manière dynamique une plateforme sans avoir à recompiler l'application Go, faire en gros l'équivalent de Eval, avec les problèmes de sécurité que ça peut porter, même s'ils ont ils limitent un peu certains accès. Et donc ils montrent comment ça se fait, comment ça marche. Alors leur benchmark est un peu débile, mais bon, donc on va un peu passer sur leurs chiffres. Mais ils disent les performances, c'est un surcoût de 10%, mais en fait c'est un surcoût de 10% pour un bout de code qui délègue à une librairie qui est déjà compilée en natif et donc pas interprétée. Donc c'est je pense qu'il faudrait faire des micro benchmarks un peu plus poussés là-dessus. Mais en tout cas, en termes d'extensibilité de la plateforme, je trouve que c'est une super idée. Et donc, voilà, pour les gens qui font du Go, ça s'appelle Yegi. Yegi. Lebert, quoi, en gros. Y-A-E-G-I.
Et c'est l'équipe de Trafic derrière qui fait ça. Donc, c'est des Français, enfin, ou francophones pour une bonne partie. D'accord. Qui sont derrière. Voilà.
Ensuite, voilà Zulu 8 qui est la JVM d'Azul et c'est 8 ça. J'imagine parce que ça supporte Java 8. En fait, ils ont fait le backport de TLS 1.3 qui est une énorme nouvelle entre guillemets, mais effectivement, il n'y avait pas de support dans Java 8, ce qui fait que vous soyez serveur ou client, vous pouviez pas parler TLS 1.3 avec les gens avec qui vous discutiez. C'est et ça. Donc, ils ont fait un backport. Il faut juste l'activer avec un -xx +, use OpenG SSE. Et puis, ça, c'est bien parce que ça permet de monter la qualité de la stack sécuritaire de votre plateforme de manière générale.
Ouais. Sondage. Sondage. C'est l'été. Après, c'est l'été. Ça s'y prête bien. Les gens sont en vacances. Ils ont du temps, peut-être.
Comment faire perdre 20% de ligne de code à votre code base pour l'été? Ce sont de choses. Donc, c'est un sondage de JetBrains. Donc, alors, déjà, c'est évidemment biaisé probablement par les utilisateurs de JetBrains. Certains. Et ils ont fait un sondage sur les développeurs, puis après, ils ont des sous-catégories Java, DevOps, Database, Open Source, etc., etc. C'est intéressant de naviguer un petit peu dedans en connaissant un peu les limites de ça. Alors, moi, les points importants, enfin, tu l'as lu ou pas?
Oui.
T'as des points que tu as relevé, d'accord. Donc, moi déjà sur le langage de manière générale, Java est le langage principal pour 34% des gens, sachant que JavaScript c'est 40%. En tout cas, c'est le seul langage pour 44% de ceux qui l'utilisent. Mmh. Ça veut dire quelque part Java il est moins polyglotte que d'autres langages. Je trouve ça un truc intéressant en tout cas parmi les gens les gens qui ont répondu à ce sondage évidemment. Au niveau des systèmes d'exploitation utilisés, Windows un petit peu en tête de quelques pourcentages, mais sinon c'est assez égal entre Linux, macOS, etc.
Mais quand même Windows, c'est quand même dur. La vie est dure.
Ouais. et puis j'ai écrit polyglotte, mais je me rappelle plus ce que ça veut dire.
Je me rappelle plus pourquoi t'as noté ça. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que par contre, sur certaines sommes, ça faisait pas 100%. Donc après, j'ai commencé à regarder, mais c'est pas très clair certains trucs. En fait, c'est parce que c'est proportionnel d'une catégorie à une autre. Donc les trucs qui étaient un peu bizarres. Mais sur les classements.
En fait, il y a les multi-usages. En fait,
oui, c'est ça.
Les gens qui font du JavaScript et du Java. C'est du ça. Coup, tes chiffres montent un peu.
T'avais des choix multiples, donc c'était un peu plus compliqué. Ça. C'est ça.
Au niveau des types d'applications que les gens développent, 60% font du back-end, 46% font du front-end, 23% du mobile, pour info 13% pour le data analysis et puis 7% pour du machine learning. Et alors il y a un truc un peu bizarre parce qu'il y a 13% des développeurs qui ne développent pas.
Ça m'a fait beaucoup rire ça effectivement.
Ouais. En tout cas, ça veut dire que les gens, ils sont poly-applicatif, en fait, évidemment. Ils sont pas que du mobile ou, voilà. Ce qu'on voit, c'est que les gens, ils font quand même plusieurs choses. Après, pour info, il y a, je fais ça à la maison, je fais ça pour, dans le cadre de mon travail. Il y a des petites variations, mais j'ai pas été zoomé là-dessus. 56% des gens contribuent à l'open source, dont 37% plusieurs fois par an.
Là, on voit clairement qu'il y a un impact sur les gens visés, parce que je pense que sur les vrais développeurs de la vraie vie, clairement, c'est vachement plus bas. Là, c'est effectivement ceux qui utilisent JetBrains ou IntelliJ, etc. Ça reste des gens qui sont effectivement sur des certainement plus ouverts ou plus, je sais pas. Je pense que là, pour le coup, il y a vraiment des biais sur le fait que ça soit la communauté JetBrains, parce que je pense pas que les contributions genre l'open source soient si hautes que ça d'une manière générale. Et là, tu es muté et je ne t'entends plus.
Ah, pardon. Et pourtant, 16% des gens n'utilisent pas de test du tout dans leur projet. Ni unitaire, ni d'intégration, ni end-to-end,
ni autre. Là, ça fait peur.
Là, ça et là, fait peur, quand même. Ça fait peur.
Et là, pour le coup, ça ressemble quand même bien à la vraie vie aussi.
Ouais, c'est ça. mais sinon, les tests unitaires sont là utilisés majoritairement en termes d'outils. Ouais.
Après, j'aimerais savoir ce que c'est que c'est toujours le même truc, c'est comment,
qu'est-ce que... comment c'est interprété.
Comment c'est interprété, parce que, est-ce que JUnit, c'est faire des tests unitaires? Voilà. Donc là, derrière.
C'est mec, c'est écrit dans le texte, c'est comme le port salut, monsieur.
C'est ça.
Au niveau des outils, j'étais un petit peu étonné, 9% utilisent un IDE dans les nuages. Ou un IDEO web, j'imagine. Donc, je trouve ça plus haut que ce que je pensais, en fait.
Ouais.
Notamment, en comparaison à la code review, seulement 10% des gens utilisent des outils de code, de revue de code.
C'est ça.
Si vous hésitez à le faire, je vous encourage, c'est un truc vraiment bien dans une équipe d'avoir de la code review. Déjà, ça décèle un peu des différences d'usage, et puis on peut essayer de travailler dans la bienveillance à un peu uniformiser le travail d'équipe. Alors, des fois, ça peut partir en pugilat, c'est là où il faut qu'il y ait quelqu'un, un petit peu le leader de l'équipe, qui coordonne un petit peu ces choses-là pour qualifier, ben qu'est-ce qu'on voilà, est-ce que c'est grave si tu utilises un tab et un space et l'autre un space ou pas, voilà tout ce genre de d'infos.
Bon, il faut modérer, mais je pense que enfin ça reste quand même un énorme vecteur d'échange de connaissances, et moi c'est ça que j'adore. Enfin, sur les code review, il y a plein de choses où effectivement X va pas voir le problème et Y va le voir, et là tu rentres dans effectivement des vrais débats, que ce soit des débats de perf, de sécu, de n'importe quoi. Ouais. C'est quand même ça qui est quand même vachement bien, la code review.
Donc parmi les, je sais plus combien, 16% qui ne font pas d'outils, non, en fait, parmi tout le monde, il y en a 44% qui utilisent régulièrement un issue tracker. Et ça, ça fait peur aussi. Parce que je sais pas comment les gens s'organisent.
C'est peu.
Parce que même moi, quand je fais un projet tout seul, juste pour dire, ah tiens, il faut que je fasse ceci, cela, ça commence par un fichier to do, mais c'est déjà traquer des choses, et puis très vite, de toute façon, j'ai le issue tracker sur GitHub ou autre.
C'est ça.
Parce que c'est un peu trop difficile à suivre, et je suis tout seul, donc je sais pas comment les gens font.
J'ai vu ça aussi, c'est très étonnant, l'issue tracker. Après, peut-être que c'est le nom issue tracker qui a exclu certaines, je sais pas. C'est effectivement superbe, 44%, enfin moins d'une personne sur deux.
83% utilisent le thème Dark Theme. Ouais. Moi, je comprends toujours pas, mais bon, après.
Ah, je suis dessus, moi. Chacun son truc. Je sais pas. Je m'en rends plus compte, en fait. Mais ouais, je suis dessus aussi. Ouais.
Et puis, en truc un peu plus léger, il y a 33% de développeurs qui ont des chiens.
26%
qui ont des chats. Et 23% qui ont les deux. Et 17% qui sont sans animaux. Et il y a 1% qui ont autres.
Autres.
Et donc, voilà.
Les poissons, ça doit compter.
Je pense à un collègue, voilà, qui a un lapin.
Lapin, un alligator. Voilà. Et hamster.
87% code le week-end.
Ouais, alors ça, c'est pareil. Moi, ça me semble super, lié.
Je crois que c'est de l'ego.
Je sais pas. Enfin, c'est. Ouais. Ouais. Je pense quand même. Après, je dis pas, je le fais aussi, mais je sais pas. Ça me semble super haut. Le développeur classique n'est pas obligé d'être celui qui va geeker le week-end, etc. Je sais pas. Ouais. Ouais, super haut. 87%, enfin, c'est quasiment tout le monde. C'est juste pas possible.
Ouais. Après, il y avait quand même, je me rappelle plus la démographie, mais il y avait quand même des étudiants, des gens en formation.
Ouais.
Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les développeurs? 6% estiment que oui complètement et 57% partiellement. Sachant que les gens qui développent du machine learning ou de l'intelligence artificielle sont plus sceptiques de manière
générale. C'est ça.
Pour moi, ça sera un outil qui va nous complémenter, donc peut-être que je rentre dans la catégorie oui partiellement, mais
ça va aider, mais je vois pas comment, enfin, en tout cas pas à court terme, peut-être pas dans notre vie, en tout cas, je vois pas encore pour l'instant comment ça pourra nous remplacer. Ça pourra nous aider, c'est certain. Enfin, de toute façon, on l'a déjà aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous aident, on voit bien la puissance des outils, mais l'AI va nous remplacer. Il va falloir attendre très longtemps.
Clippy. Dans la le sondage des enfin la sur la démographie démographique la partie démographique du sondage, donc 70% sont employés à temps plein, donc salariés au sens classique. 6% sont en gros des employeurs et 6% sont freelance. Donc je sais pas pourquoi ils ont séparé un peu les deux, mais en gros t'es voilà, il y a 12% de gens qui dont c'est la boîte. Et c'était une question qu'on avait dans un des épisodes, 1% sont à la retraite.
C'est ça.
Donc voilà, est-ce que vous coderez encore quand vous serez à la retraite? La réponse, c'est beaucoup moins, visiblement.
Ou vous répondrez pas au sondage, c'est aussi possible.
Absolument, oui, exactement. Effectivement, il faut pas oublier ce genre de choses. Sur le type de société, c'est 61% des sociétés qui font des produits informatiques, 45% qui sont dans du développement interne et 10% qui travaillent dans l'open source. C'est là aussi où, comme tu dis, on voit un peu le biais intellectuel.
Ouais, je pense.
Mais moins que ce que je pensais, tu vois.
Bah, c'est ça, c'est bizarre sur certains critères.
Il y a quand même 7000 et quelques candidats ou je sais plus.
Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est un peu particulier.
Voilà, ça c'était la démographie. Il y a encore d'autres choses sur les tailles des équipes. Ce que je trouve intéressant, donc les petites équipes sont évidemment la majorité, de 2 à 7%, de 2 à 7 personnes, c'est 51%, 8 à 12, 21%, puis après ça devient un petit peu des mastodontes en termes d'équipe. Je me rappelle plus les individuels s'ils étaient comptés. Euh 11%, les gens qui travaillent tout seuls. Ouais. Ils sont tristes, ces gens-là.
C'est surtout que c'est dur de travailler tout seul. Je sais pas, c'est compliqué de développer tout seul quelque chose sans avoir de personne en face pour te critiquer ou pour te remettre en cause, etc. Tout du moins, ça va au début, mais tu te lasses vite.
Ouais. En méthodologie agile, 40% utilisent Scrum, 40%. 11% utilisent Kanban, 3% utilisent Extreme Programming. Commence à dater un petit peu ce truc-là. Ouais. Et 32% sont Programming Motherfucker puisqu'ils n'utilisent pas de méthodo agile.
C'est ça. Ouais. Alors ça, c'est peut-être ce qu'ils croient, c'est peut-être pas ce qu'ils disent à leur patron ou à leur responsable, c'est peut-être autre chose. Hein. Ou alors c'est juste qu'ils veulent pas dire qu'ils font du cycle en V. Ils veulent pas.
Ouais,
c'est peut-être ça. Ils sont pas très agiles.
Waterfall. Hein.
Ouais, c'est ça. Waterfall. Chercher.
Alors, sur l'écosystème Java, les gens qui sont sur la version 11, 22% des gens utilisent la version 11, la version 10 et 9, 13, 14%. C'est pas si mal quand même pour des non-LTS quand même.
Ouais, c'est ça.
Mais évidemment, la majorité, c'est la version 8 avec 83% des utilisateurs. Sachant qu'on peut avoir évidemment, peut utiliser la 8 et la 11, tout ça, c'est faisable. Alors, quel serveur d'application au sens large, donc pas au sens Java E nécessairement. Donc, 66% utilisent Tomcat, 21% utilisent Jetty, 5% utilisent WebLogic, WebSphere, Wildfly, JBoss EAP, Glassfish, tout cela ont 5%. Sachant que JBoss EAP et Wildfly, c'est en gros, enfin, ça, du coup, ça fait 10% parce que c'est un peu le même outil.
C'est peu, je trouve. Je trouve que c'est peu parce que JBoss, j'étais étonné moi par ce chiffre assez bas de JBoss, enfin qui quand même c'était vachement utilisé, donc je sais pas, c'est bizarre.
Ouais. Et 23% aucun. C'est-à-dire ils n'utilisent pas de serveur d'application pour faire tourner pas de serveur web au final parce qu'on parle de d'outils. Ah oui, ici aucun, qu'est-ce que vous utilisez? Donc parmi ces 23%, il y en a la moitié, donc 61% qui utilisent Spring Boot. Ouais. Alors sachant que Spring Boot, il utilise Jetty, Undertow, donc
par défaut, c'est Tomcat, effectivement.
Ouais. Ça. Netty, 12%, Spark Java, petit framework français, francophone, français, 6%, Vertex, 4%, Undertow, 3%. Et 62% utilisent des applications embedded, et les war jar, etc., c'est 53%. Ça. Voilà. Et puis au niveau des frameworks web, Spring Boot, Alors, ça fait un petit peu peur quand on dit Spring Boot est un framework web. Et on va passer. Ça fait un peu genre, Internet, c'est Google, hein. C'est ça. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est censé être des professionnels, ces gens-là, qui c'est savent ça, différencier ouais. les choses. En tout cas, Spring MVC, 43%. Et voilà, les autres sont plus petits. Ouais. Hein, j'ai pas été dans le détail. Sur les outils de build, Maven, 70%, Gradle, 53%, et Ant, 13%. Et qui utilise la dernière version de Java EE, 39%.
Voilà. Qui utilise Java EE, déjà?
Je sais pas s'ils le disent, ça, en fait.
Bah, je sais pas, non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu, justement. C'est juste si vous utilisez Java EE. J'ai pas vu le truc. Non, justement, je suis là, je l'ai pas vu. C'est ceux qui utilisent Java EE qui utilisent la dernière version, c'est 39%.
Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont quand même répondu J2SE à cette question. Donc, bref.
C'est ça.
Ok. Bon, après, il y avait la question, quel éditeur utilisez-vous? Mais bon, sachant que c'est des utilisateurs d'IntelliJ, c'est un petit peu biaisé.
Ouais,
et je ne peux pas croire que Vim ne soit que à 1%. Scala, donc, en termes d'utilisation des versions, donc ça, c'est intéressant pour les gens qui ont des frameworks qui veulent faire bouger ou pas.
Ouais.
La 2.13, c'est 20% des gens qui l'utilisent. Mm-hmm. 2.12, 68%, donc ça reste la majorité. La 2.11, qui commence à dater un petit peu, 36%. Et puis, ça c'est un peu le fait intéressant, bon, sans doute, mais il y a 73% qui utilisent Java 8 et 28% Java 11, donc c'est du Scala, ça reste quand même un usage polyglotte, en fait, je trouve.
Ça reste assez similaire finalement à l'écosystème Java, puisqu'on est à peu près sur ces ratios-là. Avec 60...
Ah oui, pardon, c'est la JVM ou c'est le langage? Attends, du coup.
J'ai un doute maintenant. Non, c'est la...
Ah non, t'es genre, ça devait être non, ça doit être la JVM là dont ils parlent, parce qu'ils parlent de LTS, donc je pense qu'ils ont un petit peu mal écrit leur
question. Oui, c'est la JVM, c'est ça. Oui, c'est la JVM.
Ok. Au niveau des outils de test unitaire, les deux grands gagnants, c'est Scala Test, 77%, et JUnit, 26%. Le reste, après, ça descend très très bas. 60% n'utilisent pas les macros. Alors, j'avoue, je ne suis pas expert, donc je ne sais pas s'il y a des macros dans ce cas-là. Et en tout cas, il y a un truc qui s'appelle Whitebox Macro. Mmh. Je ne sais pas si c'est un truc différent. En tout cas, 10% des gens utilisent Whitebox Macro. Mmh. Au niveau, donc, si vous imposez les macros à vos utilisateurs, voilà les ratios. Au niveau des frameworks web, au niveau Scala, donc, sans surprise, AKHTTP 39%, ouais. Play 2, j'imagine, 38%, et Spring, qui revient au Web Framework, 17%. Et au niveau des librairies, beaucoup AK, 55%, et Spark, 40%, ce qui n'est pas hyper surprenant, parce que je pense qu'il y a une belle adéquation Spark-Scala en termes communautaires,
ouais.
Même si, de mémoire, Python, pardon, est en train de reprendre pas mal la main sur les jobs Spark.
Ouais.
Au niveau du système de build, 71% l'utilisent SBT.
Logique.
39%. Ouais. Bah, logique, c'est une bonne question. Ouais.
Si. Ensuite,
39% utilisent Maven et 18% Gradle. Ouais. Voilà, on va passer à la partie Kotlin. ça, c'était intéressant aussi. En gros, vous utilisez Kotlin pourquoi? Android, 66%. La JVM, c'est-à-dire en gros du back-end, 57%. Enfin, back-end, pas forcément, mais en tout cas du déploiement sur un serveur, on va dire.
Ouais.
Sur un desktop ou un serveur. Et puis, Kotlin natif, qui est relativement récent de mémoire, 8%. Et puis, JDK, 11, 25%. DC9, 11 et 14% respectivement. Et 8, 80%. On voit que c'est effectivement... assez uniforme entre les Kotliniens, les Scalaïstes et les Javaïstes.
C'est ça.
Oui, donc quel est le type d'application que vous développez? Mobile, 62%, du web backend, 41%, et des librairies, 29%. Mmh. Je suis étonné en volume de librairies, en fait.
Oui, c'est ça, oui, c'est quand même assez impressionnant. Je sais pas. Ouais,
Et donc, 11% au travail et 69% à la maison.
Oui, ça, par contre, c'est effectivement super.
Ouais. Et parmi les autres langages que les gens qui font du Kotlin utilisent, 86% Java, grand langage qui domine en langage alternatif. Et les bases de données, c'est là où il y a un peu le what the fuck du jour, mais le donc ouais. MySQL 60%, Postgre 32%, MongoDB 30%, Redis 27%, Oracle DB 16%. Alors, soit il y a des gens qui mentent, parce que quand même, enfin, qu'on l'aime ou pas, il y a quand même encore beaucoup de déploiements Oracle, hein, et du coup, c'est un peu étonnant que les gens
disent... C'est une fois de plus, c'est le biais, je pense que c'est le biais de la communauté IntelliJ, enfin IntelliJ, JetBrains, mais oui, parce que même, je suis super étonné, MySQL 60%, bon, ça reste super prisé, etc., mais les gens avaient tendance plutôt à migrer vers MariaDB, c'est ça, hein.
Ouais, c'est pas mentionné, Maria.
Maria, je l'ai pas vu. Donc c'est pour ça, je trouve ça quand même assez étonnant parce qu'il y avait quand même pas mal de quoi de côté communauté MySQL. Donc je sais que beaucoup de gens avaient commencé à regarder côté MariaDB. Parce que MySQL, oui, c'est Oracle, et beaucoup de choses sont devenues payantes dessus, sur tout ce qui est administratif, etc. Enfin bon, c'est quand même bizarre.
Ouais. Moi, j'ai remonté un serveur il y a pas si longtemps là. Effectivement, les packages MySQL, soit de toute façon c'est du Maria derrière. C'est explicitement du Maria, mais maintenant c'est aussi supporté. Pareil. Ouais. Voilà, c'était le sondage de l'été.
C'est ça.
On va passer au niveau framework rapidement. Mm-hmm. Alors là, c'est un petit peu, pour info, c'est un petit peu plus éparsé les news parce que y a pas grand-chose hein, cet été. Et puis voilà quoi. Mais du coup, donc au niveau des frameworks, Quarkus 0.19 est sorti. Alors la 0.20 est en train d'être fait aujourd'hui de mémoire. Et parmi les grandes nouvelles, une extension pour accéder à Mongo, à Neo4j, à AWS DynamoDB. Et puis aussi pour faire du Apache Tika, c'est-à-dire générer les PDF, ce genre de choses. Donc voilà, ça continue d'avancer là-dessus. Tu veux peut-être prendre la main?
Oui, je peux. Du Kubernetes, vous en voulez, en voilà. Déjà, Elastic Cloud qui sort sa suite sur Kubernetes. Alors pour l'instant, c'est toujours une version alpha, c'est la 0.9.0 alpha 2, qui vient de sortir, je crois, cette nuit ou aujourd'hui, je ne sais plus. Donc eux, ils passent toute leur stack, pareil, pour supporter les différentes implémentations Kubernetes. Je n'ai plus la liste en tête, je peux regarder vite fait. Donc Google, bien sûr, Red Hat OpenShift, Azure Kubernetes, IKS pour Amazon, et puis le Vanilla... Le normal, le self-hosted. Donc ils sont en train d'implémenter tout ça, donc c'est toujours...
C'est pas self-hosted, c'est plutôt que t'as pas pris la distribution de quelqu'un qui amène un peu plus que,
c'est
en
vrai.
Gros, le moteur de base.
C'est ça. Et continuons sur la partie Kubernetes. Maintenant, c'est disponible sur Cloud Foundry. Alors peut-être que toi, t'as plus de détails parce que sur Cloud Foundry, moi, je suis pas un expert. Par contre,
En fait, c'est Pivotal qui est en train de faire un virage Kubernetes, parce qu'en gros, il l'avait raté. Et d'ailleurs, il y a Ford qui a annoncé une perte de 181 millions de dollars liée au fait que Pivotal a eu une grosse baisse en fait en bourse. Et Ford et Dell sont les deux gros actionnaires. Il y avait deux ou trois gros actionnaires. Voilà.
Oui.
Et effectivement, ils étaient partis sur la technologie Cloud Foundry, VMware, etc. Et puis on voit bien que Kubernetes je sais pas si vous vous rappelez l'épisode avec Sacha Labouret, mais c'est ça, c'est qu'en gros, finalement, ça y est, tout le monde s'est mis d'accord, c'est ça la plateforme d'orchestration standardisée, puis maintenant, on va avoir chacun sa version, que ce soit dans le cloud ou chez nous, et du coup, voilà, Pivotal fait ce virage-là, donc ils ont une version alpha de ce qu'ils appellent Pivotal Application Service, qui sont leur stack, notamment avec le Cloud Foundry Push, ce genre de choses. Je sais pas si ça inclut aussi les trucs du genre Gemfire pour Kubernetes
je sais pas.
Au niveau quali ils en sont, en tout cas, et bon bref, ils sont en train de faire ce virage. Pareil, voilà, RabbitMQ, ils parlent une version alpha sur Kubernetes. Au niveau
web, on note qu'on n'a rien mis, donc nous sommes désolés, chère communauté web, mais vous voyez bien qu'Audrey n'est pas là. Donc tout d'un coup, la partie web, elle est vachement rapide à faire. Il n'y a pas trop de news, a priori. Mais...
Attends, il y a un truc qui me...
T'as noté quelque chose, toi? Ah, moi, j'ai rien noté. En web, j'ai rien vu du tout de...
Attends, laisse-moi réfléchir une petite seconde. C'est un truc sur Firefox. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, enfin, c'est juste qu'ils continuent à avancer en termes de faire évoluer la signalétique, notamment les sites web non sécurisés qui sont maintenant, je pense, autour des 20% ou un truc comme ça dans le, mm-hmm. dans le trafic web, vont être signalés comme explicitement non sécures aujourd'hui. C'était, je pense que Google avait, enfin, pardon, Chrome avait Chrome, l'idée, ouais. La charge là-dessus. Mm-hmm. Et voilà. Firefox, bon, suit là-dessus, ils innovent sur d'autres endroits, donc.
Et il y a pas mal de, il y a pas mal de d'entités qui suivent, parce que j'ai vu aussi côté alors Spring Boot et tout ça. Pareil, ils ont un projet de, alors je sais plus comment ils l'ont appelé, ça doit être No HTTP. Mais pareil, ils veulent forcer, aider à déprécier, bah, HTTP pour forcer les gens à utiliser HTTPS en majorité, etc. Donc il y a beaucoup d'efforts en ce moment, non pas que sur la partie browser, mais aussi côté back-end, pour aider à aller vers du HTTPS only, ce qui est quand même mieux.
Ouais. Après, bah, par exemple, si on reprend le contexte de Kubernetes, la question c'est, est-ce que c'est ton service qui fait du HTTPS ou est-ce que tu délègues à un service mesh de type Istio? Donc,
ouais.
C'est pas clair quelle partie, mais effectivement, si les frameworks, je sais que sur Quarkus, on réfléchit à ça aussi, à dire, bah, tiens, on va faire un module, une extension Let's Encrypt, donc tu la mets dedans, et puis ça va aller télécharger ton certificat, et puis l'installer. Après, si t'es sur du Kubernetes et que t'as un proxy devant, où est-ce que t'arrêtes le trafic HTTPS? Si t'as plusieurs pods, comment tu gères? Voilà, il y a des complexités, ouais. Mais en tout cas, en termes de démarrage, voilà, si on peut aider, c'est plutôt cool.
D'accord.
On va passer à la data, ça aurait pu être dans les frameworks, c'est Micronaut. Ouais, qui a sorti Micronaut Data ou Micronaut Data Repository. Alors, pour info, il était nommé Predator pour Pre-Computed Data, je sais pas quoi, Repository. Puis après, il y a eu des gens qui ont estimé que c'était c'est comme le Master Slave, Predator versus Prey, etc. C'est des choses où les gens étaient pas très confortables. Voilà. Donc, ça a été renommé. Mais en tout cas, voilà, c'est il y a un support JPA, un support JDBC, et ils expliquent comment ils sont bien plus rapides, notamment JDBC par rapport à Gorm, qui est le père de, enfin historiquement le père de ça, de Micronaut, Micronaut Data, et puis Spring Data, parce qu'en fait ils font le calcul de la génération des requêtes en fait au moment du build et pas au moment du démarrage. Après, alors moi je suis pas expert, mais les gens, il y a chez nous quelqu'un qui avait regardé rapidement un peu le benchmark, il avait eu des petites failles au niveau d'utilisation de JMH, non c'est ça, ouais.
Ouais.
L'outil pour faire des, ouais. Donc voilà, faites vos propres benchmarks quand vous voulez évaluer ce genre de choses. Comme d'habitude, hein. C'est la seule fois qu'on voit un benchmark, c'est ce qu'on dit.
C'est ça.
Voilà, ça c'était pour les data.
Data.
On va passer à l'outillage.
Mm-hmm. C'est moi qui ai rajouté deux articles. Bah, le premier, c'est alors c'est un truc sur lequel j'ai un peu galéré il y a quelques semaines. Enfin, j'ai galéré. Ça m'a pris quelques minutes de trouver les bons liens, etc. C'est Jacoco, pour ceux qui font du coverage sur leur code, et qui utilisent donc Jacoco, qui est le framework aujourd'hui préconisé, notamment par SonarQube, mais pas que. Et ils ont changé récemment, si vous utilisez SonarQube, ils ont changé pour déprécier, pareil, même chez Jacoco, ça a été déprécié, l'utilisation du format binaire des rapports Jacoco pour passer au format XML. Et oui, il y a toujours des gens qui font du XML. Et donc,
c'est ça qui m'étonne, ça veut dire qu'ils sont passés au XML, c'est-à-dire qu'ils, c'est pas quand est-ce que ça c'est arrivé ce truc-là, mais...
Alors, je pense qu'en fait ça faisait longtemps que le format XML était supporté, mais le format natif binaire était quand même celui qui était préconisé, et là maintenant ils ont arrêté, enfin ils arrêtent, mais j'ai pas trop su pourquoi.
Et du coup t'avais un générateur de cet exécutable, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
De ce binaire, pardon.
Oui, c'est ça, c'est les plugins te généraient le format, un format binaire qui en fait, et puis t'avais un truc pour le lire, et donc c'est ce que faisait SonarQube, il lisait le format binaire qui était généré par Jacoco, et il injectait les métriques de coverage dans SonarQube, donc ça devient des précieux, ce format binaire, et donc il passe au format XML, donc il faut reconfigurer vos builds pour pouvoir générer ces fichiers XML plutôt que les fichiers binaires. Et donc voilà, donc au tout début c'était pas documenté ou mal documenté, donc finalement ils ont fini côté SonarQube à fournir de documentation pour les différents outils de build, Maven, Gradle, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc je vous ai mis le lien dans l'article, c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le truc, mais voilà, faut juste le savoir. Et pour l'instant SonarQube, donc je sais plus, c'est dans une des dernières versions, c'est dans la version précédente des règles Java qu'ils ont introduit la dépréciation du format binaire, et donc ils font un petit warning dans vos logs qui disent oh, attention ça va être déprécié, voilà. Mais bon, pour l'instant c'est encore, ça sera plus tard dans l'année a priori que ça sera arrêté, donc vous avez encore le temps de migrer.
D'accord.
Voilà. NetBeans. Alors NetBeans, bon bah vit sa vie. Hein, NetBeans, si vous vous souvenez, c'était
Apache Sun, NetBeans.
Et voilà. Et donc en fait, c'est la première version, donc la version 11.1, c'est la première version qui est sortie de chez Apache en tant que top level project. Jusqu'à présent, c'était en incubation. Alors depuis un petit bout de temps, je me rappelle plus le nombre de. Mais bah depuis que ça a été donné par Oracle. C'est ça, puisque c'était du Sun à l'origine.
Ouais.
Donc ça a été donné à la fondation. Alors je me rappelle plus combien d'années, mais je pense qu'on parle d'années. Et donc c'était en incubateur, et là ça y est, c'est un top level project de mémoire, ça doit être netbeans.apache.org. Et voilà, sa première release, la 11.1. Donc après il y a pas mal de, enfin alors dans la 11.1 il y a pas des tonnes de nouveautés, mais il y a les supports pour Java 8. Et je crois qu'il y avait des choses sur Java, la dernière.
Notamment, ils ont. Ouais, notamment, ils sont passés sur le serveur. Comment ça fait? Payara. Mm-hmm. Qui était le fork de Glassfish, en fait. Visiblement, ils sont passés de Glassfish à Payara comme remplacement aussi, en termes de, de serveur qu'ils intègrent.
Et ils supportent Maven et Gradle pour Java 8 aussi.
Ouais.
Ils ont une meilleure intégration. Gluon.
Ouais. Gluon OpenG, enfin pour JavaFX. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des supports de Java, les nouvelles syntaxes là du switch mm-hmm. et des choses comme ça là dans les nouveaux langages. Voilà. Ah, mm-hmm. syntaxe coloring pour Kotlin.
Pour Kotlin. Ouais, c'est ça.
Ça reste, en tout cas, ça avance. Que du syntaxe. Voilà.
Oui,
ouais.
Bah,
ouais.
Mais bon, ça avance. Voilà. Ça c'est pour ceux qui utilisent NetBeans. Voilà. Donc là, 11.1 a été réalisé, pas très longtemps, la semaine ouais. dernière. Voilà.
La dernière fois, on a parlé d'event sourcing, mais là, on va parler d'event storming en méthodologie.
Allez, dis-nous tout, parce que alors, j'ai essayé de le lire. Je t'avouerai l'article. Mais alors, j'ai trouvé ça super compliqué. Alors, je sais pas si c'est
là...
mon cerveau qui est.
Et c'est là où vous voyez qu'on prépare bien l'épisode, parce que je voulais m'appuyer entièrement sur Arnaud aussi.
Oh, t'es gentil, c'est gentil.
Alors, de ce que j'ai compris, j'ai pas bien compris pourquoi on le faisait, en fait. Mais de ce que j'ai compris, il explique un peu le processus d'event storming oui. et comment c'est fait. Donc, c'est beaucoup à la main, un petit peu comme le Kanban mm-hmm. à la main, où on est là, en fait, c'est en one shot. C'est un travail voilà, qui est fait avec tous les stakeholders de l'équipe pour, de ce que j'ai compris, sortir l'information implicite dans les organisations et de le rendre explicite pour que tout le monde réalise mm-hmm. qu'il y a des choses, et notamment le développeur qui doit améliorer les choses ou développer les choses. Mm-hmm. Donc, et ça commence par, pourquoi ça s'appelle event storming, c'est qu'on commence par les événements. Genre commande envoyée, je sais pas, email envoyé, choses publiées, voilà, les événements qui de notre système. Et donc il y a toute une phase un peu chaotique où les gens mettent les événements, en fait les génèrent, et disent ah oui il y a ça aussi, ah oui tiens il y a René qui prend sa caisse pour aller livrer la personne, enfin tout ça. Donc ça, après, on a les événements, et une fois qu'on a les événements, l'étape 2, c'est de définir qui est lié à ces événements en tant qu'acteur. Ben tiens, c'est enfin là je parlais de René parce qu'ils utilisaient des noms en fait dans les dans les exemples, mais ça peut être soit une personne soit une fonction, mais en tout cas qui fait quoi est lié à ça, et puis quelles sont les données principales. Par exemple, si on parle de calcul de prix, le poids, le nombre d'éléments et l'adresse, ce sont les données importantes pour pouvoir calculer le prix. Et après, visiblement, c'est là aussi où on commence à définir des frontières de choses communes, des événements qui sont un peu à regrouper ensemble. Alors, je sais pas si c'est lié au domaine driven, là-dessus, s'il y a une relation slash corrélation, mais en tout cas, il y a cette partie-là. Il y a aussi les connexions avec les systèmes extérieurs, le progiciel, la banque qui va vous faire le paiement, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis après, c'est un peu libre. Les gens peuvent définir des liens, rajouter des informations supplémentaires. Mais l'idée, c'est que ça reste quand même lisible et explorable par tout le monde, parce que l'idée, c'est d'avoir je sais pas si c'est le universal thing, là, le langage universel, mais c'est d'avoir des points communs et de découvrir un peu les choses qui étaient implicites. Donc, je disais sur le projet. Et c'est éphémère parce que c'est un peu du one shot, et donc quand ça évolue, il faut en fait régulièrement, peut-être il faut recommencer. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Mais effectivement, je suis un peu comme toi, j'ai pas tout compris. C'était un peu brouillon en termes de voilà comment ça se passe, qu'est-ce que les gens découvrent, et puis l'utilisation ultime, à quoi ça sert. Bon, après, je l'ai lu rapidement parce que j'étais à la bourre, comme on m'a expliqué. T'avais des choses à rajouter, toi, c'est un peu ça que t'as
non,
compris.
Non, effectivement, non, moi c'est aussi ce que j'en avais compris. Je comprends que c'est vraiment pour essayer de s'aligner, pour mieux comprendre l'ensemble du process, des intégrations, etc. De pas viser la ligne temporelle, mais effectivement d'avoir une liste d'événements avec des liens entre eux, etc. Et derrière d'agréger les différents stimuli ou les différentes actions qui sont faites, etc. Donc ça permet effectivement de partager cette connaissance, ce qui effectivement est quelque chose d'utile. Dans toute équipe qui évolue régulièrement, on a des gens qui arrivent, des gens qui partent, etc. Je pense que c'est quelque chose qui peut être vachement utile pour essayer de clarifier l'ensemble d'un processus et d'une tâche.
Ouais. On va passer à la sécurité. Déjà un truc surprenant sur les adresses IP. C'est toi qui l'avais mis ou...
C'est moi qui l'ai mis. Alors, j'ai pas trouvé. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé d'article. Donc c'est un thread sur Twitter. Je vous ai mis. J'ai pas trouvé d'article. Mais j'ai testé. C'est rigolo, ça marche. Et donc en fait, il y a plein d'astuces qu'on connaît mal sur les adresses IP, sur lesquelles en fait on peut les raccourcir. Donc par exemple, quand vous avez des zéros, vous pouvez les retirer. Donc si vous faites un HTTP 1.0.0.1, c'est la même chose que si vous faites un 1.1. Pareil, alors il y a plein de trucs sur les sur le dernier chiffre. Vous pouvez faire des overflows. Donc si vous faites 255, donc ça reviendra à 1. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, ça va additionner. Donc,
mais t'as compris pourquoi 1.1.1, il savait que le 0 il était en troisième position?
Non, alors c'est vachement compliqué, justement. Il y en a un qui a essayé d'expliquer ça dans le thread, parce que en fait tout revient au niveau des binaires, et quand tu le recodes en hexa, donc il y a une histoire d'hexa, et là effectivement j'ai été perdu. En tout cas, ce qu'il disait, c'est que ça permet notamment de bypasser des fois, si vous avez des filtres, des WAF, qui bloquent certaines IP ou des choses comme ça, vous pouvez jouer des fois avec ces filtres là, avec ces règles là pour avoir une autre IP mais qui pointe sur la même target. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. J'essaierai de trouver, parce que ça m'avait vraiment intéressé, mais j'ai pas pu trouver d'article. J'essaierai de trouver un truc vraiment plus formel qui explique ça plus en détail. Ou pareil, si vous avez...
L'IPv6, ça fait ça, hein, parce que elle est tellement longue qu'il y a tous les zéros, on peut les enlever, en fait. Sauf qu'on garde quand même les séparateurs, là, les deux points.
On peut s'en passer des séparateurs, et effectivement, avec tu peux les écrire en hexa, machin, etc. Enfin bon, il y a plein de trucs. Bon, c'est vrai que c'est juste que tout est certainement très logique derrière, mais en fait, si on n'y pense pas, on est juste complètement câblé avec nos IP V4 en tête, et puis voilà.
Ouais.
Toujours dans la rubrique sécurité, donc c'était la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je me rappelle plus, il y a eu Zoom, donc si vous utilisez Zoom pour faire vos calls, Zoom a eu on a découvert publiquement une grosse faille de sécurité, puisque sur macOS, Zoom avait installé un serveur web, on va dire, qui permettait d'accéder à votre webcam. Et donc, vous pouviez, en remote, accéder à n'importe quelle webcam de n'importe quelle machine macOS qui avait installé Zoom. Youhou ! Voilà. Donc ça, c'est pour faire la version très très simplifiée. Bon, bien sûr, ça a été très vite corrigé dans les 24 heures par les équipes de Zoom et même par Apple, qui a fourni un fixe silencieusement. Donc ils ont dit.
Enfin, le fixe, c'est qu'ils viraient Zoom en fait. Hein.
Ils désactivaient la partie.
Ils ont leur kill switch. Ouais.
Le truc. Ouais. Et mais donc ils l'ont déployé silencieusement sur tous les Mac. Voilà, c'était un truc qui s'est fait. Ça fait partie de leur procédure de sécurité, on est votre ami, on vous aime, on vous sécurise, quoi que vous vouliez ou pas, on le fait. Voilà. Donc ça a été fait.
Un truc que j'ai pas compris, c'est s'ils pouvaient rentrer dans une communication qui existait ou si ça démarrait Zoom.
Non,
pour
ce que j'ai compris, c'était une. Non, tu rentrais pas dans un. C'est que ça te permettait de démarrer, d'accéder à la caméra et de créer donc une connexion. Donc je pouvais activer ta caméra et voir ce qui se passe chez toi si elle était pas déjà utilisée, si Zoom était pas déjà utilisé sur ce truc-là. Ça permettait juste. Ça permettait beaucoup de trop, mais ça permettait d'activer en remote le système de caméra via Zoom. Mais ça permet pas, si t'étais déjà en communication, j'ai pas l'impression que tu pouvais t'intégrer dans une communication existante.
D'accord. J'ai pas eu ça aurait été intéressant en chat roulette, tu vois. et un truc intéressant aussi, c'est que en fait Zoom est utilisé en marque blanche par pas mal d'autres trucs. Donc oui. Là, il y avait visiblement Telus, British Telecom,
AT&T,
etc., etc.
C'est ça.
Donc il y en a pas mal en fait qui utilisaient la même techno, du coup le même trou.
Et tout ça, je me rappelle même plus, mais c'était un workaround qu'ils avaient implémenté de faire ça. Je sais plus pourquoi pour activer ça. Enfin, quand on voit l'explication, c'était juste pas sérieux de se dire les gars ils font un truc comme ça complètement ouvert, non sécurisé.
Après, il y a plein d'applis qui démarrent un serveur web. Pour faire leur communication, ouais. Enfin, en gros, l'appli elle communique en local à un autre process, mais du coup via un serveur web parce que c'est plus simple. Par contre, ce serveur web, il reste allumé tout le temps. Il me semble, je sais plus si c'est pour éviter à réussir à passer les firewall et autres NAT et machin comme ça.
Mais d'ailleurs, moi, il y a un truc que je comprends pas. D'ailleurs, faut que je vois avec Slack. Mais Slack, systématiquement, quand on fait un call vidéo, audio avec Slack, si vous utilisez les fonctionnalités pour utiliser la montre pour ouvrir votre session, donc vous faites une connexion, vous faites un call, vous mettez votre ordinateur en veille, et il ressortira pas de veille avec la montre et voir avec le, je m'en rappelle plus avec le touchpad, mais il faut mettre le mot de passe et avec un joli warning disant votre écran est partagé. Gloops, quoi. Et parce que a priori, j'ai l'impression que quand on fait des calls avec Slack, même si on partage pas son écran, ça active la fonctionnalité partage d'écran dans les security settings de l'OS. Et donc derrière l'OS il refuse de faire des choses de se reconnecter. A priori, je sais pas pourquoi l'Apple Watch refuse de déconnecter la session quand le partage d'écran est activé. Il y a des trucs bizarres, donc tous ces trucs là, tous ces outils de communication, faut quand même se méfier. Moi je reste très très méfiant et je ferme tout ce que je peux, c'est pour ça que je garde le minimum imposé par le travail. D'ouvert, et donc je sais que maintenant j'ai pris l'automatisme Slack systématiquement. Si quelqu'un m'appelle dessus, derrière je le ferme et je le rouvre pour être sûr qu'il n'y ait pas de truc ouvert, de partage de connexion, enfin de screen dessus. Donc voilà, méfiance.
D'accord. C'est toi qui l'as mis dans les limites sécu ou pas?
Oui, alors j'ai pas eu le temps de l'écouter malheureusement, mais bon, par contre, je sais que c'est, enfin, j'ai pas écouté cet épisode-là, nos limites sécu pour le coup. Par contre, ça reste un podcast qui est très reconnu. Enfin, toi, tu l'écoutes hein, aussi, hein, je crois.
Ouais.
Voilà. Et donc là, ils ont fait un hors-série cet été. Là, ils commencent un hors-série, c'est pas un épisode sur l'histoire du droit numérique, du droit du numérique. Voilà. Donc, ça
sauf
me semble.
Sauf que, alors, donc moi, je l'ai. Alors... Enfin, du coup, j'ai essayé de l'écouter en accéléré et pour l'instant, la première demi-heure, c'est comment il utilise la BD pour faire passer ces informations un peu abscons du droit et des choses comme ça, en fait. Donc, il reprend des morceaux de BD et puis il change les bulles ou pas pour faire passer. Et donc, pour l'instant, il y a peu d'informations sur le droit du numérique en tant que tel.
Lui-même, d'accord.
Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs épisodes, j'imagine.
Oui, j'imagine aussi. Donc, voilà. Je pense que ça, vu que nous, on fera pas d'épisode d'ici la rentrée, si vous êtes intéressé, je pense que pendant l'été ou voire à la rentrée, ils vont continuer de publier les épisodes. Donc voilà, si ça vous intéresse, le droit du numérique, n'hésitez pas à aller voir et l'écouter, le podcast Nos Limites Sécu.
Ouais. Loi, société, organisation, tout ça, le code de Apollo 11 a été open sourcé sur GitHub.
C'est ça.
Donc,
c'est impressionnant.
J'ai pas réussi, j'ai regardé rapidement, j'ai pas compris le langage dans lequel c'était.
Non, j'ai pas compris non plus. les fichiers sont très bizarroïdes. Du AGC, etc. C'était ça, le AGC.
Ça, AGC, c'est le Guidance Computer, je crois. Apollo Guidance Computer.
C'est ça. Donc ça doit être, ça a l'air d'être spécifique et ça a l'air de ressembler beaucoup à de l'assembleur en gros, parce qu'on voit vraiment les opérations de manivaux. Mais voilà, donc c'est marrant de voir ça. Il y a quand même de plus en plus, je trouve, de projets comme ça qu'on retrouve sur le net. Je sais que c'était quoi qu'ils avaient mis aussi en ligne l'autre fois. Il y avait aussi quelque chose. Donc sur GitHub maintenant, on trouve vraiment du code source de beaucoup de projets. Historiquement, je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile et ça se rapproche à la démarche que fait Software Heritage Foundation, c'est ça?
Ouais.
Software Heritage. Voilà, de rendre tout ça public, de l'archiver et tout. Je pense que ça reste quand même super super intéressant d'avoir ces choses-là disponibles et surtout bon, Apollo 11, ça date d'un certain temps. C'est sûr qu'on va pas le réutiliser demain, le code.
Ouais.
Et pour continuer dans GitHub, donc ça c'est ce que j'ai rajouté, donc ça c'est les bons côtés de GitHub, on trouve plein de choses et des choses fabuleuses comme Apollo 11, et puis bah voilà, GitHub ça reste une société américaine, et qu'est-ce qui se passe quand on est une société de droit américain, comme beaucoup d'autres, ne l'oubliez pas. On a des règles, et il faut se conformer aux règles US, notamment liées à l'export, aux règles d'export, etc. Et donc bah là du jour au lendemain, effectivement très brutalement, les personnes vivant en Iran, voire même a priori reconnues comme iraniennes, donc c'est pas très clair justement les critères, enfin il y a plusieurs articles sur le sujet, ont été bannis de GitHub. Donc ce qui bah bien sûr impacte un certain nombre de personnes, sachant que bah ils offrent en plus les repos publics aujourd'hui, les repos privés, même dans les comptes gratuits, etc. Les projets open source, bah il y a des projets qui sont impactés aussi. Alors ça a évolué beaucoup ces dernières semaines, ça va continuer à mon avis à évoluer, c'est quelque chose qui s'est produit il y a une ou deux semaines, je m'en rappelle plus, et donc il y a eu pas mal de rebondissements, donc je vous ai mis le lien vers l'article où il y a eu pas mal de détails, mais bon il y en a plein sur la toile, sur lequel bon justement au tout début bon ils pouvaient même plus du tout accéder à leur compte, ils pouvaient plus accéder à leur repo même privé, ils pouvaient même pas avoir un backup. Finalement GitHub a accepté de leur donner accès à seule condition qu'ils marquent leur repo privé en public, youpi, c'est vachement sympa, et dans ce cas ils peuvent faire un clone. Bon, voilà, donc enfin il y a toute l'historique, les impacts, je vous ai mis un autre article plus journalistique sur le sujet, je pense qu'il y aura encore des rebondissements dans les jours et semaines à venir, mais voilà, ça fait partie des choses qu'il ne faut pas oublier quand on utilise des services tierces qui sont hébergés par des entreprises des pays, elles doivent se conformer à leurs règles, et donc bah des fois ça peut faire mal, et du jour au lendemain, effectivement, ça pique.
Ouais. Plusieurs choses, donc déjà bah il y a aussi des règles en Europe et en France hein. Ensuite c'est pas que l'Iran, donc il y a la Corée du Nord,
non, ouais.
Il y a la Crimée, enfin tous ceux qui ont un embargo américain
commercial. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est un embargo. Ce qu'ils appliquent, c'est l'embargo commercial, je crois. Et c'est là où effectivement les gens se rebellent en disant, bah oui, mais moi je fais pas du commerce avec GitHub dans le sens où j'utilise la version gratuite. C'est là où il y a plein de sous-entendus.
Gratuit, ça veut pas dire que tu fais pas de commerce.
Eh oui, mais c'est ça.
Il y a un contrat implicitement.
Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est là-dessus que ça joue, qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. Tout à fait.
Et puis Git est une technologie distribuée. Vous pouvez faire vos clones.
C'est ça. N'oubliez pas que la centralisation a ses bons et ses mauvais côtés. Et Git, voilà, ça se clone. Et effectivement, avoir des copies, des backups, etc. de tous les services que vous utilisez, ça reste une bonne idée quand même dans l'ensemble.
Sinon, donc je vous rappelais la dernière fois Audrey.
C'est ça. La cyber-haine,
la loi. Petite larme et petite inquiétude autour de la loi sur la cyber-haine.
À l'époque, c'était, donc quand on a fait l'épisode le mois dernier, c'était en cours de vote, donc on était, je sais plus dans quels amendements, mais bon, effectivement, ça sentait déjà le roussi que tout était en train de passer. Donc bien sûr, la proposition de loi contre la haine en ligne a été votée, adoptée le 9 juillet. Donc aujourd'hui, il reste que le recours du Sénat, il doit passer au Sénat pour voir si ça continue comme ça ou pas. Pour rappel, cette loi, la principale chose, c'est qu'elle va imposer aux plateformes en ligne de supprimer en cas de signalement de tout contenu illicite. Là, on peut tout mettre, justement, c'est un peu dangereux. Ils ont 24 heures pour retirer les contenus qui sont a priori illicites. Et en cas de manquement aux obligations, bon, bah, c'est d'énormes sanctions, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, et puis et des amendes allant jusqu'à 1,2 million d'euros. Donc en gros, on peut s'attendre à ce que les plateformes se plient à la loi et donc très agressivement retirent le moindre contenu flagué comme illicite. Ce qui n'est pas sans poser de soucis du tout.
C'est sur dénonciation en fait. C'est quand même un utilisateur qui dit voilà, je m'appelle. Visiblement c'est nom, prénom, email.
Voilà.
Il y a une autre info.
Considère que Emmanuel Bernard a dit un truc insultant, enfin illégal, vraiment illégal. Donc raciste, homophobe, sexiste, ce que je veux sur tel réseau social. La plateforme doit le retirer. Ce qui pose, après il y avait d'autres articles, mais qui effectivement soulignent le problème derrière de poursuivre, parce que si le contenu est retiré vite fait, ça veut dire que si la personne qui voudrait attaquer celui qui a fait la chose illicite, va falloir qu'elle entreprenne une démarche pour réussir à obtenir la preuve de la part de la plateforme si elle n'en a pas gardé une copie, etc. Donc ça, c'est aussi, c'est un double effet. C'est vraiment l'achat de.
Mais ça dit, je pense qu'il faudra se rebeller un petit peu. Alors il y a deux choses. Il y a déjà, si vous faites une déclaration de contenu illicite, pas incorrect, mais manifestement. Genre vous abusez le système, c'est quand même 15 000 boules d'amende.
C'est ça.
Faites attention si vous avez des ados qui
pas ce qu'a dit la prof. Merci.
Ouais, et effectivement le point c'est que donc normalement avant sanction, il y a un juge, le juge a été mis en fait à l'écart en fait de ce processus là.
Là, c'est vraiment les plateformes qui choisissent. C'est les plateformes qui choisissent directement et qui décident de c'est illégal ou pas. Et donc, je bloque ou pas. Ouais. C'est ça le gros souci. Il n'y a pas de juge au milieu pour faire le choix.
Ouais. Disons qu'il est en deuxième recours on fait une complainte, mais c'est plus compliqué.
Il est plus tard. Trop tard.
Facebook, 5 milliards en moins. Ça allège les poches.
C'est ça. Alors, c'est rigolo, pas rigolo, parce que finalement ça allège les poches, mais quand ils l'ont annoncé, leurs actions ont augmenté de je ne sais plus combien. Donc finalement ça n'allège
pas. Oui, après ils avaient déjà, en fait le truc c'est que ils avaient déjà provisionné je sais pas combien de milliards en disant on va s'en prendre une. Donc j'imagine que l'action à ce moment-là avait baissé du montant équivalent. Je sais pas s'ils avaient mis de côté ce montant-là ou plus, mais du coup c'est pour ça que potentiellement que l'action remonte en fait. Ça peut être ça.
C'est ça. Et donc c'est le scandale de Cambridge Analytica qui a été il y a un an, deux ans, trois ans, je sais plus, deux ans moins, que ça a été découvert. Et donc ils ont accepté de payer l'amende de 5 milliards de dollars. Mais en échange, alors, ils vont faire plein d'efforts. Donc j'espère qu'Audrey va venir sur Facebook, parce que là, ils promettent plein de choses, hein, pour être sûr que notre privacy soit respectée, qu'ils fassent tout bien et qu'ils tiennent leurs objectifs. Tout ça, c'est régi directement par Marc. C'est au nom du PDG qu'il va y avoir un bureau qui va gérer directement et vérifier tous les 3 mois que les règles de confidentialité, privacité, etc., tout ça sont bien respectés, qu'ils améliorent leurs outillages d'audit, qu'ils sont en règle par rapport aux tiers, etc., etc. Voilà. Donc, voilà.
Mais
donc,
ça, en fait, c'est une suite, parce que visiblement, il y a 8 ans, ils s'étaient déjà fait un peu taper sur les doigts, et oui, ils avaient accepté de se soumettre pendant 20 ans à des audits indépendants et à recueillir le consentement explicite des membres pour les modifications sensibles de réglage, etc.
C'est ça.
Ah oui, non, du coup, en fait, je l'avais mal lu, mais il me semblait que c'est pour ça que la FTC avait, pour ça qu'ils ont tapé aussi fort, c'est qu'en gros, ils ont menti, aux engagements qu'ils avaient donnés avant, en fait.
C'est ça.
Et du coup, là, pour le coup, la justice américaine, ils aiment pas trop ça, et donc, paf! Puis c'est pas les 100 000 euros d'amende.
Oui, non, là, c'est, voilà. Là, c'est pour les
caméras. C'est un quart de leur bénéfice annuel.
Oui, c'est ça. Et ça tombe bien qu'eux, ils fassent des bénéfices. Parce que justement, donc parlons des taxes GAFA. Alors de la taxe GAFA, qui n'est pas la taxe GAFA, puisqu'elle elle touche en théorie beaucoup plus d'entreprises que les simples GAFA. Donc elle a été...
Pour info, on ne sait pas la liste, mais ça serait du Airbnb, Alibaba, Amadeus, Amazon, Apple... Ça. Axel Springer, je sais pas ce que c'est, Booking, Criteo, eBay, Expedia, Facebook, Google, Groupon, Match.com, Microsoft, Rakuten, je sais pas ce que c'est, Randstad, Recruit, Sabre, tiens, il y en a deux quand même dans l'aviation, etc., etc. Twitter, Uber, Zalando.
Donc ça a été voté le 25 juillet, donc l'idée c'est d'effectivement de faire un peu payer à tous ces acteurs du numérique qui font des profits, alors soi-disant des profits a priori en France, justement une part de leur gâteau, sachant que souvent ils sont, alors en Europe on a le fameux problème du Luxembourg et puis de l'Irlande, où généralement ils sont affiliés et donc ils payent leurs impôts que dans ces pays-là, ou majoritairement dans ces pays-là, on va dire. Donc voilà, donc c'est pour essayer de rétablir un peu un équilibre. C'est censé être temporaire le temps que la France réussisse à convaincre l'Europe de faire quelque chose de manière globale, et non pas quelque chose de local à la France. Bien sûr, cela n'a pas plu à notre cher ami Trump, qui donc a promis que si on continuait ça, il ferait des taxes sur le vin, hein, parce que voilà, le vin c'est mieux le vin américain, ce qu'il a dit, même s'il en boit pas. Voilà, donc c'est une nouvelle guéguerre qui va s'ouvrir sur ce type de sujet, à savoir est-ce que la France va réussir à vraiment emmener les pays européens, voire internationalement, à réussir à faire des règles pour rendre tout ça un peu plus régulé. Bon, ça reste compliqué.
Après, ouais, là, le débat, c'est que... Enfin, moi, je trouve ça... Ouais, alors, il y a deux seuils. Il y a un seuil de 750 millions sur votre chiffre d'affaires global et de 25 millions sur le chiffre d'affaires français sur les activités numériques. Ouais. Donc, en dessous, vous n'êtes pas imposable. Mais effectivement, c'est la taxe, du coup, elle est sur le chiffre d'affaires à cause des optimisations sur le bénéfice, en fait, puisque ce qui se passe, c'est qu'on fait effectivement des bénéfices, sauf que, on a un coût de royalty de la société Apple Irlande, par exemple, voilà, et donc c'est comme ça qu'on s'en sort, donc c'est pour ça que c'est sur le chiffre d'affaires, mais du coup, sur le chiffre d'affaires, effectivement, il y a des boîtes qui sont à peine à la rentabilité, potentiellement, et voilà, donc c'est un peu la difficulté de ces choses-là. Je pense que ça sera effectivement mieux quand l'OCDE aura un framework globalement accepté, puisque ça, finalement, ça, les boîtes le font pour optimiser leur truc, mais après, si personne le peut, à ce moment-là, il n'y a pas de désavantage concurrentiel à plus le faire.
C'est ça. Ensuite, la loi Huawei. donc au grand dam des opérateurs qui a été accepté, qui a été voté aussi très récemment, je sais plus, non, j'ai pas la date, qui donc va imposer à ce que dans le cadre de la mise en place de la 5G, les équipementiers soient prévalidés par le premier ministre, le bureau du premier ministre. Alors, les équipements et les équipementiers a priori, puisque justement ça va être de valider que ce qu'ils fournissent techniquement n'a pas de faille, de backdoor, etc. Mais donc ça sera validé au niveau de l'équipementier, ce que j'ai compris. Donc c'est soit tout, soit rien en gros. Je sais pas. C'est a priori c'est par pardon.
D'où le. Je sais pas. En tout cas dans l'article il parle d'équipement, il parle pas d'équipementier.
Ah, je dois voir un autre article sur la partie d'équipement.
Une autorisation. Ouais, bah du coup, enfin, quand ils disent autorisation du Premier ministre, ça veut dire que probablement que c'est l'ANSSI qui va se s'occuper de ça.
Ouais. Et donc, bah, ça va ralentir énormément le déploiement de la 5G. C'est d'où les opérateurs télécoms qui sont pas.
On s'en fout, mais on veut la 4G partout déjà.
C'est ça, c'est un peu ça. Si la 4G marchait déjà. Voilà. Donc, sachant que j'ai vu que c'est Free Telecom qui va tester la station F, la 5G, là, d'ici en septembre, je crois, quelque chose comme ça, j'ai vu passer. Donc voilà, donc il y en a qui commencent à tester la 5G. Mais voilà, donc ça va ralentir un peu les processus. Si pour le coup, ça permet quand même d'éviter un peu qu'il y ait des choses pourries, bon, pour une fois, je suis pas sûr que ça soit si mauvais que ça.
Ouais. De manière intéressante, donc on voit que c'est quand même ça réagit à aux nouvelles du jour, mais ça n'est pas rétroactif sur les le matériel 4G et 3G, etc. Donc là, on peut se faire trouer, ça c'est pas grave.
Oui, c'est
mais
ça.
Sur la 5G, c'est pas autorisé.
C'est ça. Vous pouvez écouter nos conversations en 4G, mais pas en 5G. D'accord, ok, ça marche. donc autre loi qui est passée le 25 juillet au journal officiel, enfin un décret, c'est sur l'handicap et les grandes entreprises qui doivent rendre accessibles leurs sites et applications. Ça concerne donc pas mal de monde. Ce sont toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires annuel en France qui est supérieur à, j'ai perdu mon article.
250 millions, je crois, un truc comme ça.
250 millions, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc ça impose un certain nombre d'améliorations en termes d'accessibilité.
Pas que les sites web d'ailleurs, il y a aussi les interfaces de manière générale.
C'est ça. Donc mobile, voilà.
Logiciel.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mobile urbain.
Par contre, ils disent contenu audio. Oui, mobile urbain, c'est-à-dire votre borne Autolib. Bon là, elle vous sert plus à grand chose, mais voilà. Donc quand si un jour elle revient, la bande Vélib, il faut qu'elle soit accessible aux handicapés divers. Par contre, il parle de contenu audio et je sais pas du coup ce que ça veut dire, que c'est quoi les contraintes, tu vois, un podcast, il fait quoi? Il faut qu'on écrive c'est un transcript,
Le transcript, ouais, j'imagine. J'imagine le jour où on fera 250 millions d'euros sur Patreon.
Sur Patreon.
On vous attend. Hein. ce jour-là, effectivement, on sera obligé d'avoir des transcripts, j'imagine.
Bon, je pense qu'on pourra se le payer pour le coup.
pour le coup, oui, je pense qu'on pourra le faire même transcript en toutes les langues, sans souci. Voilà. Donc, ouais, je pense que c'est ça sur ce genre de choses. Mais j'ai vu que dans l'article, il y avait tout un tas d'autres choses sur les différents déficits. Il n'y a pas que l'auditif, le visuel, etc. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses.
Ouais, la dyslexie, choses comme ça.
Voilà. Mais donc, en gros, bon, bah, c'est une bonne chose, c'est une super bonne chose d'essayer de faire bouger. C'était déjà des règles qui étaient appliquées en théorie, mais normalement dans la pratique aussi, par tous les sites gérés par le gouvernement, etc. Et voilà, ils essayent d'étendre ces obligations et d'avoir une meilleure accessibilité. Voilà, donc, c'est bien. Continuons. Une meilleure accessibilité pour tous. Slack. Tu veux en parler de Slack? Tu utilises Slack, toi, ou pas, au boulot?
Non, on n'utilise pas Slack au boulot.
T'as de la chance.
On utilise la suite Google, en fait. Donc, dedans, il y a un truc qui est moins bien, mais au moins qui a les garanties en termes de sécurité et de prix par utilisateur aussi.
D'accord. Okay. Ouais, donc cet article, c'était justement un article sur bon, Slack, c'est effectivement super populaire, tout le monde utilise ça, c'est génial ou pas, mais bon voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais effectivement, il y a des tonnes et tonnes d'entreprises qui utilisent, et donc l'article c'est et si bah toutes vos communications Slack étaient détournées et puis étaient mises en public. Voilà, donc c'est un essai, c'est juste une de la théorie. Mais ça met en avant bah, toujours le même problème, hein, le fait de diversifier les outils qu'on utilise, de confier à des tiers que l'on maîtrise pas trop, des choses qui sont aussi stratégiques finalement que nos communications internes des entreprises, où on va pouvoir parler de choses bah, très critiques pour notre business. C'est là-dessus que se base l'article. Est-ce que vous êtes prêts à ce que demain, bah, toutes vos communications soient mises sur le web ou pas? Voilà. Donc c'est, on a bien vu bah, avec l'autre problème de sécurité de cette semaine. Voilà, ça peut arriver. Zoom. Pourquoi pas demain un problème chez Slack et tout qui fuite. Bon, voilà. C'est une remise en cause et de se dire un peu bah, qu'est-ce qu'on veut faire pour éviter ça.
Ouais. Après, il ouais, n'y a pas que cela, quoi. Mais enfin, les données
Tous, qui sont bah, dehors, on en revient
même gérées par nous-mêmes, c'est bon, ouais, ça reste un problème général. De toute façon,
tout générique. Est piratable. Mais puis voilà, même Google, même les emails chez Google, même enfin voilà, tout potentiellement demain. Est-ce que l'on fait ce qu'il faut pour protéger et pour être sûr que... Voilà. Un article que j'ai rajouté, que j'avais bien aimé, ça fait plusieurs semaines que je l'ai lu, sur le travail en remote, de Deborah Ripoll, je ne la connais pas, mais qui travaille... et donc, qui fait un état, qui donne des conseils sur le télétravail. Je m'y suis bien retrouvé, je sais pas si t'as eu le temps de le lire, toi, Manu.
Je m'y suis tellement retrouvé que je trouvais ça un peu bateau, mais c'est le ressenti que j'ai eu moi.
Bah je sais pas. Après, je fais ça depuis longtemps. Oui, on est dedans. Bah voilà, c'est ça, on est dedans. Donc c'est pour ça que je trouve ça potentiellement intéressant si vous posez la question du télétravail, parce que je sais que moi j'ai encore eu des questions dans mon entourage, pareil. Hein, tiens, le télétravail, c'est bien, c'est pas bien. Je crois que je m'y mette ou pas. Je trouvais que l'article reprenait bien bah, les avantages, les inconvénients aussi, les limitations, etc. J'ai trouvé ça assez. Voilà, ça m'a bien parlé. Donc si vous posez toujours des questions de bah devriez-vous travailler en télétravail ou pas, à temps plein ou à temps partiel. Toi, t'es à temps partiel, c'est ça, Emmanuel?
Ouais, c'est ça, je suis, bon, quand je suis pas en voyage, j'ai tendance à aller à midi au bureau et pas, enfin, trois jours par semaine, quoi.
Ouais. Moi, je le fais en temps plein depuis 10 ans maintenant. Et voilà. C'est vrai que ça a ses avantages et ses inconvénients. La semaine dernière, avec la canicule, ça a certains inconvénients, je dois l'avouer. Voilà. Notamment, même le matériel électronique qui te lâche parce qu'il fait trop chaud chez toi et t'as tout qui plante. Voilà. C'est des choses que, effectivement, on rencontre comme problème quand on est en télétravail. Mais voilà. Mais, ouais, je trouvais ça très bien. Donc voilà. Si vous intéressez au télétravail, lisez-le. Je pense que ça peut vous, potentiellement, vous aider, à mieux comprendre ce que ça veut dire que faire du télétravail.
Ouais.
Et j'ai mis un article, enfin un article, une liste de liens de Tristan.
Une liste à la Prévert, on appelle ça.
Ouais, c'est ça, ouais, de Tristan Nitto. Alors j'en ai lu certains, j'ai pas tout lu, mais bon, comme j'aime beaucoup sa démarche, et d'ailleurs on essaiera de l'interviewer d'ici peu, normalement, c'est en cours de s'organiser. Et donc Tristan Nitto, donc ex-Netscape, alors je me rappelle plus, voilà, aujourd'hui il est chez Compte. Mais donc bon, lui, son dada, c'est effectivement bah, tout ce qui est changement climatique. Vous verrez beaucoup d'articles sur le vélo. Voilà, c'est devenu un fan du vélo depuis, je sais pas, depuis peut-être un an, un truc comme ça. Il fait tous ses trajets en vélo, etc. Donc beaucoup d'écologie et puis bah surtout beaucoup de choses liées à la protection des données, la privacy, les géants du net, etc. Donc il a listé pas mal de liens. Donc si vous cherchez de la lecture pendant les vacances, je vous invite à lire son blog sur lequel il a référencé dizaines, je pense, de liens, voilà, qui sont intéressants à parcourir. J'en ai lu une bonne partie, mais voilà, c'est utile.
Ouais. Pour ceux qui utilisent On va passer à l'outil de l'épisode. Pour ceux qui utilisent Twitter et qui n'utilisent pas une application mais qui utilisent le site web, vous avez sûrement remarqué que Twitter a changé son interface.
Mais quelle horreur.
Moi, j'utilise jamais, donc j'ai pas remarqué. Mais du coup, visiblement, ça déplaît aux gens. Et du coup, il y a moyen de revenir en arrière. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une extension Chrome et Firefox qui va aller, en gros, remettre l'interface ancienne par-dessus les données qui sont fournies par l'interface nouvelle.
Les anciens CSS, les anciens JavaScript, etc. Non, quelle horreur. Enfin, moi, j'utilise rarement. J'utilise que pour préparer, en gros, les épisodes des Cascodeurs. J'utilise la version web pour regarder les liens que j'avais notés, que j'avais mis de côté, etc. C'est le seul moment où j'utilise, mais je trouve ça encore pire que, enfin, déjà que c'était pas top avant. Mais alors là, c'est tout blanc, c'est tout aseptisé, c'est la moitié de mon écran est vide. Effectivement, je comprends. Après, voilà, je suis comme toi, j'utilise pas régulièrement, j'utilise essentiellement la version mobile. Ce qui me permet aussi de restreindre énormément mon usage de Twitter ces derniers temps. Et voilà, je le lis un peu le matin, je le lis un peu le soir, mais j'ai arrêté comme à une certaine époque où j'étais constamment sur Twitter toutes les 5 minutes. Vous pouvez toujours me pinguer dessus, vous verrez que même les DM, etc., ça met un certain temps avant d'être répondu. Voilà.
Ouais, moi je suis à plusieurs jours maintenant largement.
Ok. Rubrique débutant.
Ouais. Alors, je vais pas aller dans le détail parce que c'est un peu compliqué. C'est Oncle Bob qui explique les classes versus les data structures. Alors, c'est un petit peu du pétage dans la soie hein, quand même. Mais finalement, c'est une question de qu'est-ce qu'on appelle un objet, qu'est-ce qu'on appelle une data structure. Donc lui, il le différencie explicitement. Au final, il y a quand même le langage objet et un objet représente et la data structure et l'objet tel qu'il le définit lui. Donc il faut prendre un petit peu de recul sur ce qu'il raconte. Mais cela dit, c'était intéressant en termes de design. En gros, enfin, je vais juste résumer le point le plus saillant, mais c'est intéressant de voir tout l'échange. Mais un objet, c'est un container qui exprime des fonctions. C'est un ensemble de fonctions et ça va effectuer ces fonctions sur des données, mais qui sont implicites. Elles sont pas exprimées par le contrat, en gros. Et du coup, bah, on a par exemple, si on parle d'un contrat surface, et ben on a l'air, calcul de l'air, calcul du périmètre, etc. Ça, c'est les fonctions. Et puis après, vous implémentez le triangle, le carré, etc., etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on peut rajouter des nouvelles surfaces, types de surfaces. Mais par contre, quand on rajoute des nouvelles fonctions, faut aller se taper tous les changements sur tous les objets qui implémentent ce contrat-là. La data structure, c'est un ensemble d'éléments de données. Par exemple, votre DTO, c'est une data structure qui a un ensemble d'éléments de données et sur lesquels on va appliquer des fonctions implicites. Et donc, là, c'est l'inverse. Et si vous modifiez la structure des données que vous avez du travail à faire sur toutes les sous-classes de cette data structure ou tous les appels et les fonctions, pour le coup, elles, vu qu'il y a ces contrats qui ne bougent pas, on peut écrire plein d'autres fonctions et les rajouter. Donc ça, c'est la différence. Data structure, ce qui est vraiment défini, c'est les éléments de données, et l'objet, dans la définition de Oncle Bob, c'est les fonctions qui sont vraiment définies et pas tant les data structures. Donc c'est en fait, quand on se dit je vais rajouter des fonctions au fil de l'eau tout le temps, je vais peut-être utiliser une data structure et comme ça rajouter les fonctions me coûte moins cher et vice versa. Voilà, donc je vous laisserai lire l'article, ça me permet de zoomer un petit peu là-dessus. Donc à un moment il dit c'est pas des ORM vu qu'il travaille sur des data structures, donc c'est des DRM quoi.
C'est ça.
Voilà. Je sais pas si tu l'avais lu, toi, t'avais d'autres remarques
là-dessus.
Si,
non, j'ai lu, et effectivement, enfin, comme toi, enfin, oui, c'est très, 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 très avancé, mais, moi, je trouve ça intéressant de se remettre de prendre un peu de distance aussi, parce que, enfin, voilà, c'est, quand on code un objet, depuis des années, c'est vrai que, le nez dans le guidon, on crée nos structures, et c'est vrai qu'on se pose pas obligatoirement les bonnes questions, Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé ça intéressant et un peu rafraîchissant pour réexpliquer. Enfin, et puis surtout quand on voit aujourd'hui, quand il y a beaucoup de questions autour de devrais-je faire du fonctionnel ou devrais-je faire du continuer de l'objet, etc. Mais c'est vrai que l'objet, la programmation objet, pardon, aujourd'hui a tendance à être quand même aussi très déformée. On fait un peu tout et n'importe quoi avec. Certains frameworks nous aident aussi. À le faire. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi pour ça qu'on se met des bâtons dans les roues et qu'on complexifie des fois la code base et tout, parce qu'on n'utilise peut-être pas à bon escient, je trouve, le langage objet, enfin la notion d'objet. Voilà. Donc c'est, je trouve que c'est rafraîchissant comme lecture.
Ouais. Conférence. Donc c'est pas tant pour débutants en fait quand même. Faut quand même. Si vous posez des questions sur l'objet, vous allez vous en poser encore plus derrière, mais peut-être oui, pour le bien. Conférence. Le Jug Summer Camp le 13 septembre 2019. DevFest Toulouse le 3 octobre 2019. Neo4j Online Developer Expo and Summit Nodes. Oh c'est beau ça. Je me demandais pourquoi c'était un nom si bizarre. le 10 octobre 2019, le Kotlin Everywhere Paris, le 19 octobre aussi, non, 19 octobre 2019, DevFest Nantes, 21-22 octobre, Vox Microservice du 21 au 23 octobre, j'y serai avec Clément pour parler Quarkus, Scala.io du 29 au 31 octobre à Lyon, le thème c'est la programmation fonctionnelle justement, DevOps Belgique du 4 au 8 novembre, BDX.io le 15 novembre, DevOps D-Day les 13 et les 14 novembre, le CSFP est ouvert, et Codeur en scène le 21 novembre 2019, et après, il n'y a plus rien.
après on va aller sur Noël et on va se reposer. Et puis voilà. Vous aurez tout votre temps pour remplir le CFP de DevOps France qui reviendra.
Ouais. Voilà. Ça va revenir aussi vite là. J'ai l'impression que c'était hier. Ouais.
Oh là là, on vient de finir la dernière édition. C'est ça.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Désolé pour les petits. On a sauté une interview, un petit problème de trouver les gens, prendre le temps, etc. Entre l'été, les gens qui répondent pas forcément tous en temps et en heure, et puis nous, qu'on c'est un petit peu des quelques couacs successifs. On va essayer de reprendre une activité normale autour de la rentrée.
Voilà.
Merci à tous.
Bonne journée. À plus.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.